Vous êtes sur RTL. RTL. Clara Luciani est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Ladies and gentlemen,
12h30, 13h30,
please welcome
le journal inattendu.
Clara Luciani, Ophélie Meunier.
Clara Luciani,
bonjour.
Bienvenue dans le journal inattendu, c'est un plaisir de vous recevoir. On est ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission. Depuis le 11 juin, on écoute Cœur en boucle, votre nouvel album. La chanson Le Reste qu'on vient d'entendre est un tube. Le nouveau single qui vient de sortir Respire Encore est exactement ce dont on avait besoin après ces mois difficiles. Et ça y est, vous êtes numéro 1 des ventes en France et en Belgique. Waouh. Ça va ?
C'est extraordinaire.
J'imagine que ça va. Alors, comment avez-vous fait depuis la grenade pour entrer à ce point dans le cœur des Français ? Cette émission va nous permettre de mieux vous découvrir, de connaître votre regard sur notre société, de se replonger dans votre parcours, de révéler vos inspirations musicales et cinématographiques, de rappeler les coulisses de la création de cet album Cœur, qui s'annonce clairement comme l'un des plus gros succès de l'année. Je sais que vous avez un truc avec le mot succès, hein, pardon.
Il me fait peur.
Il vous fait peur. Mais bah, faut appelons un chat, ça va être ça. Et nous serons même, et ça je suis très fière, en direct, c'est inédit, avec votre père, oui. Jean-Marc Luciani, oui. Car vous avez souhaité qu'il soit votre invité.
C'est mon cadeau de fête des pères.
Oui. C'est un cadeau pour nous aussi, parce que vous nous faites confiance. Hein.
Oui.
On verra ce qu'il dira, mais c'est
vous
pas pareil.
Vous me faites peur. Non.
En tout cas, justement, pour mieux vous connaître, Clara Luciani, il y a au début du journal inattendu un exercice auquel tous les invités se prêtent. Alors, écrit ou improvisé, avec aisance ou intimité, c'est comme vous voulez. Vous avez une minute pour faire votre autoportrait. Alors, Clara Luciani, qui êtes-vous ?
Je m'appelle Clara Luciani, j'ai 28 ans pour encore quelques semaines et je suis chanteuse. Je pourrais vous parler de l'endroit où je suis née, de ma taille, de ma sœur, mais il me semble avoir évoqué tout ça en interview de nombreuses fois déjà. Après m'être demandé ce qui au-delà de tout ça me définissait, j'ai choisi de vous lire un court extrait du journal de l'amour de Anaïs Nin, dans lequel je me suis intimement reconnue. Peut-être qu'après cette lecture, vous comprendrez mieux mon amour pour Jacques Demy, mon appétit pour le spectacle, mon goût pour les paillettes et mes grands éclats de rire. Anaïs Nin écrit à son père. « Pour le moment, je n'ai pas envie d'écrire, mais de faire de la musique. Au fond, mon papa adorait, tu aurais été très malheureux avec une femme comme moi, parce que je suis une exaltée qui ne comprend la vie que lyriquement, musicalement, avec des sentiments beaucoup plus forts que la raison. » J'ai une telle soif de merveilleux et seul le merveilleux a de la puissance sur moi. Le reste, quand je ne peux le transfigurer en merveilleux, je le laisse. La réalité ne m'en impose pas. Je ne crois qu'à l'ivresse, qu'à l'extase. Et quand la vie ordinaire m'entrave, je m'en échappe par un moyen ou par un autre. Je choisis la lune éternellement, même pour le petit déjeuner.
On adore vous entendre chanter, mais on adore vous entendre lire aussi.
Oh, c'est gentil.
Alors Jacques Demy, on va en parler. Et les faux rires et l'humour, on va en parler avec votre papa. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Deuxième match de poule pour les Bleus. L'équipe de France affronte à 15h la Hongrie sous une chaleur torride. Si elle gagne, elle est sûre d'aller en huitième de finale de l'Euro. Cette équipe de France, nous serons en direct de Budapest dès le début de ce journal avec notre envoyé spécial. Une nuit d'une rare violence à Redon, en Ille-et-Vilaine. Les forces de l'ordre ont tenté d'empêcher une rave party illégale qui avait été organisé sur les réseaux sociaux. Le bilan est lourd. Plusieurs gendarmes blessés et un jeune homme de 22 ans qui a perdu une main. Cédric Jubilard, le mari de Delphine disparue il y a 6 mois, a été mis en examen et écroué. Alors quels sont les éléments de l'enquête qui ont mené à cette décision ? On fait le point avec notre correspondant à Cagnac. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous nous donnez des nouvelles du temps en France, mais aussi un peu en Hongrie.
Il va surtout faire très très chaud là-bas. Ils vont pas
pour
avoir
les
mêmes orages que
nous avons, on est vraiment concernés par une grosse masse orageuse cet après-midi. Ça claque fort en ce moment en Charente-Maritime ou encore en Vendée. Ça, c'est une première salve orageuse qui va traverser la Bretagne dans les heures à venir. Et puis, il y en a une autre cachée en embuscade sur les Pyrénées qui va passer la barrière pyrénéenne, qui va remonter vers le nord et ça va vraiment claquer très fort ce soir entre le Limousin, le Centre, le bassin parisien, la Normandie et les Hauts-de-France à l'est et dans le sud. Pendant ce temps-là, tout va bien. Grand soleil, voilà pourquoi en Hongrie, il fera beau et très chaud aussi. On attend 35 degrés à Grenoble cet après-midi. Ce sera à peu près la température ressentie pendant le match, précisément 34 à Strasbourg, 31 pour Ajaccio. Il fera 29 degrés à Reims, 28 à Paris, 27 à Orléans, 24 degrés à Lille et Biarritz et 19 à Brest.
Merci Valérie Quintin. International, à 13h, c'est vous, Clara Luciani, qui ferait la météo. C'est comme ça dans le journal inattendu.
Le journal inattendu sur RTL.
Jour de match pour les Bleus à l'Euro. Dans un peu moins de 3 heures maintenant, l'équipe de France affronte la Hongrie à Budapest. On retrouve tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux en direct de Budapest. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour à tous.
Vous êtes au stade, bel enjeu. Hein. En cas de victoire, les Bleus sont sûrs d'être qualifiés pour les huitièmes de finale.
Oui, c'est l'un des scénarios. D'ailleurs, c'est le plus simple. Un succès et la présence au tour suivant sera déjà validée. Même en cas de match nul, cela pourrait suffire. Mais il faudra alors attendre le résultat d'Allemagne-Portugal tout à l'heure. Dans cette belle enceinte aux allures de soucoupe volante récente bâtie en 2019, les Bleus vont essayer d'enchaîner une deuxième prestation convaincante, conserver la solidité entrevue contre la Mannschaft, parfaire l'exécution offensive. Les attaquants Mbappé, Griezmann, Benzema sont attendus contre une sélection hongroise qui a gêné le Portugal avant de craquer dans les derniers instants et qui sera poussée par 60 000 supporters. Ce sera nouveau pour les Bleus qui n'ont plus joué dans un stade plein depuis novembre 2019 en Albanie.
Et puis Nicolas, situation un peu spéciale pour l'équipe de France qui joue en plein après-midi, on vient d'en parler avec Valérie Quintin, sous une chaleur torride, on parle d'un ressenti de 37 degrés, pas mal quand même.
Hein, oui, exactement, c'est très étouffant, je vous le confirme. Alors les Bleus s'y sont préparés, basculant dès le lendemain de France-Allemagne vers des entraînements programmés au milieu de l'après-midi. L'encadrement de l'équipe de France a aussi insisté auprès de l'effectif pour rappeler l'essentiel, le bon sens, s'hydrater, apporter un soin particulier à la récupération. Ce sont des conditions similaires au match d'ouverture de la Coupe du Monde en 2018. Les Français avaient eu les jambes un peu lourdes face à l'Australie, la chaleur était accablante. Eh bien, les Bleus devront composer avec ce paramètre.
Merci Nicolas Georgerot, l'un de nos envoyés spéciaux de RTL à Budapest. Grande journée de football sur notre antenne. Notez bien, tout d'abord, l'avant-match de cette rencontre Hongrie-France, c'est à partir de 14h30. Vous pourrez la suivre en direct ainsi que le débrief jusqu'à 17h. À partir de 18h, le match Allemagne-Portugal est à suivre en fil rouge. 18h30-20h, on refait le match avec Christian Olivier et ses chroniques. Et dans la foulée, de 20h à 23h, vous retrouvez Eric Silvestro et Giovanni Castaldi pour RTL Foot spécial Euro. Clara Luciani, je sais que vous n'êtes pas hyper branchée foot, mais est-ce que vous pourriez un jour tenter d'écrire un hymne pour nos Bleus, par exemple ?
Oh bah pourquoi pas ? Moi j'aime bien l'idée de toute façon des choses qui rassemblent. Donc ouais. Je pourrais me plier à l'exercice.
Vous reviendrez nous en parler, nous la chanter. À la une de l'actualité également, cette rêve partie illégale qui a viré à l'affrontement cette nuit à Redon, en Ille-et-Vilaine. 1500 personnes s'étaient donné rendez-vous sur les réseaux sociaux. Ce rassemblement n'avait pas été autorisé par la préfecture au moment où les forces de l'ordre sont intervenues. Eh bien, cela a dégénéré. Mathieu Lopineau, vous êtes sur place pour RTL. C'était une nuit d'une très rare violence.
Allez, à partir de minuit hier soir, les forces de l'ordre ont chargé dans ce champ en bordure de Redon, dans une zone classée Natura 2000, des échanges toute la nuit entre des gaz lacrymaux, des jets de pierre, des cocktails Molotov. Le bilan officiel fait état de 5 gendarmes blessés et 5 teufeurs, dont un grave, un jeune homme de 22 ans qui a perdu une main. Il aurait voulu ramasser une grenade assourdissante, une enquête est ouverte. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à ce matin, très tôt. Elodie et Johan, 24 ans, ont assisté à ces scènes de violence.
Ça me prenait dans le nez, dans la bouche, et j'ai vomi pendant au moins 20 minutes et j'étais mal dans les yeux, ça me piquait, j'avais l'impression vraiment que j'allais mourir.
Le jeune couple vient de Bordeaux pour faire la fête. Un de leurs amis est blessé.
Les flics, ils ont commencé à charger. Il a couru, il est tombé par terre. Il avait toute la jambe en sang.
On était comme des malpropres, quoi.
On voulait juste s'amuser, profiter de deux jours de Technival pour danser, pour être devant de la musique et tout, parce que toutes les boîtes sont fermées. Et au final, on se prend des tatanes comme ça.
Le calme est revenu depuis 6h ce matin. Les gendarmes bloquent donc la zone. Impossible d'entrer sur le Technival. Depuis 11h, tout à l'heure, la musique résonne à nouveau. Les sonos sont rallumés. Il faut dire que le Technival est prévu jusqu'à mardi et d'autres sont attendus aujourd'hui et demain ici à Redon.
Mathieu Lopineau à Redon, en Ille-et-Vilaine pour RTL. Ils se nomment les Invisibles et ils ont décidé de manifester aujourd'hui à Paris. Ces Invisibles, ce sont tous ces Français menacés de perdre leur emploi suite à la crise sanitaire. Il y a 15 jours, le ministère du Travail a indiqué que 1041 plans de sauvegarde de l'emploi avaient été initiés au printemps 2020. Cela veut dire que près de 113 000 Français pourraient être licenciés. De nombreux secteurs sont concernés, voyagistes, hôtellerie, industrie du jeu vidéo, mais aussi les services publics, la Poste, la Banque de France, des soignants même. Les manifestants se retrouvent à 14h au siège du MEDEF. Ils demandent l'interdiction de ces licenciements, mais aussi l'abandon de la réforme sur l'assurance chômage. Rien à voir, mais enfin, si, à voir quand même, Clara Luciani, je sais que au tout début de cette pandémie, vous avez été hyper inquiète de plus jamais pouvoir faire votre métier aussi et d'une certaine manière d'être un peu licenciée de votre métier de chanteuse.
Bien sûr, j'étais...
Comprenez tous ces gens
j'étais
qui sont
terrifiée. Ouais. Ah oui, oui, évidemment. C'est très dur de se sentir dépossédée de sa fonction, en fait, parce qu'on se rend compte que... moi, c'est le sens de ma vie et je suis certaine que pour beaucoup de personnes, c'est le cas aussi. Quoi. On fait de notre profession le sens de notre vie et en être comme ça dépossédé, c'est dur de trouver son équilibre après ça.
Manifestation des Invisibles qui commence à 14h à Paris. Dans un instant, on fait le point sur l'enquête sur la disparition de Delphine Jubélard. Rebondissement, son mari a été mis en examen et écroué. À tout de suite pour la suite du journal inattendu de Clara Luciani.
RTL. Le journal inattendu sur RTL. Avec Clara Luciani et Ophélie Meunier.
La suite de l'actualité, 6 mois après la disparition de Delphine Jubillard, son mari, Cédric, a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire par conjoint. À ce jour, il n'existe pas de preuve tangible qui permet d'affirmer que Cédric a tué son épouse, mais plusieurs éléments ont conduit à cette décision. Patrick Hisson, vous êtes en direct de Cagnac, où vivent les Jubillard. Comment réagit le village déjà à cette mise en examen ?
Eh bien, la plupart du temps avec prudence ce matin, car si beaucoup imaginaient ici Cédric Jubillard comme le principal suspect, ils pensent aussi que l'enquête n'est pas encore suffisamment aboutie.
Quelque part, j'avoue que ça ne m'étonne pas. Je peux rien dire, il est présumé innocent jusqu'au bout. Hein. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est qu'on n'ait toujours pas retrouvé Delphine.
C'est difficile d'accuser quelqu'un quand il n'y a pas de preuves. J'espère qu'il l'avoue, parce que la famille a besoin de savoir, et nous aussi, quoi.
Cela dit, quelques rares habitants comme Nathalie ont un avis beaucoup plus tranché.
Je trouve que c'est normal qu'ils soient en prison, parce que dès le départ, on avait des doutes que c'est lui qui avait tué sa femme. J'espère qu'on retrouvera le corps.
Il faut dire que des éléments très troublants révélés hier par le procureur renforcent le sentiment de ceux qui sont convaincus de la culpabilité de Cédric Jubillard, et notamment cette machine à laver effectuée la nuit de la disparition avec la couette de Delphine à l'intérieur.
C'est le point qui l'a tué, ça, je pense. Hein.
Et puis la voiture.
Ah ouais.
La voiture qui a bougé
et la couette. Parce qu'aller lever une couette à 3h du matin en appelant les gendarmes, c'est louche. Quoi.
Mais à mon avis, ils ont plus de preuves.
Voilà, il y a aussi ces cris entendus par deux passants peu après 23h le soir de la disparition. Mais il y a également, et peut-être surtout aujourd'hui, toutes ces zones d'ombre. Le corps n'a pas été retrouvé. Il n'y a pas de scénario des circonstances de la mort de Delphine. Et puis, bien sûr, à ce stade, aucun aveu de Cédric Jubillard.
Merci Patrick Hisson à Cagnac pour RTL. Un mot de rugby. La Rochelle a décroché hier son ticket pour la première finale de top 14 de son histoire. Pour connaître son adversaire, rendez-vous ce soir à 20h45 pour la rencontre Toulouse-Bordeaux-Bègles. La finale aura lieu le 25 juin au Stade de France. Clara Luciani, votre actualité, c'est ce deuxième album solo Cœur, sorti le 11 juin, qui connaît déjà un incroyable accueil, pour ne pas reprendre le mot succès, numéro 1 des ventes en France et en Belgique. Vous nous avez mis en jambe avec ce premier single dont il est impossible de se séparer du refrain dès qu'on l'entend, Le Reste. Le reste de l'axe. Je ne pouvais pas ne pas commencer par ça. C'était un petit plaisir personnel. On peut lire dans les médias qui dressent votre portrait là depuis quelques semaines. Chasseuse de morosité, ambianceuse. C'est assez inattendu, assez inédit. Hein. Vous attendiez ce genre de compliment atypique à la sortie de votre album ?
Non, mais ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un disque qui a été pensé, qui a été construit pour être... Un antidote au cafard et je suis contente de lire et d'entendre que c'est en train de devenir effectivement...
C'est des compliments nouveaux, quoi.
J'aime beaucoup.
On aime votre voix, on aime votre écriture, voilà, on sait aussi que vous nous ambiancez. Merci Clara Luciani. Depuis 2018, on est très très nombreux à avoir adhéré à votre personnage, à vos chansons, votre voix grave, votre style hors du temps. Et malgré tout, sur votre album, eh bien, vous chantez ça.
Je sais pas plaire, c'est tout un savoir-faire. Faut aimer son repas de mystère. Je sais pas faire, je sais pas plaire.
Bah, je sais pas plaire, mais je plais quand même. Bon, ça, donc c'est que ça a changé en 3 ans.
Je sais pas, je pense que c'est une chanson qui raconte surtout à quel point moi j'ai du mal avec moi-même et à quel point je ne me plais pas. Et
toujours?
C'est dur de... Oui, toujours.
Ah, c'est vrai.
Moins peut-être depuis que j'ai la chance d'être soutenue par un public extraordinaire qui me fait me sentir un petit peu plus légitime.
Mais c'est un travail
mais c'est toujours
qui
là.
Continue.
Ouais.
Beau hasard de la vie en tout cas. En 2018, vous chantiez La Grenade en plein mouvement féministe MeToo, qui est devenu un peu un hymne féministe. En 2021, vous nous chantez Respire encore, qu'on entendra tout à l'heure, alors que ça fait 1 an et demi qu'on est masqué et enfermé. Il y a des choses, il y a un alignement de planètes.
Mais écoutez, je commence à le croire.
Ultra calculé de votre part.
Non, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as appelé le gouvernement en demandant qu'on enlève les masques pour respirer encore. Non, c'est complètement fou. Mais c'est beau. J'y vois une forme de destin, je sais pas. C'est joli.
Votre vie aujourd'hui, c'est celle d'artiste, de chanteuse. Et voilà comment vous parlez des chanteurs, chanteurs et chanteuses, de manière générale, sur votre album. Le titre s'appelle Le Chanteur.
Mais on n'épouse pas plus les chanteurs que les comètes, les étoiles filantes, les poètes. On n'épouse pas les chanteurs, c'est voulant fermer le vent. C'était pas bien pas.
Personne n'a jamais réussi à enfermer le vent, je vous confirme. Vous avez dit que cette vie de chanteur, que vous racontiez qu'à un moment de tournée dans votre bus tour, vous avez dit waouh, quand même, quelle drôle de vie, hein, cette vie de chanteur.
Pour citer Véronique Sanson, c'est vrai que c'est une drôle de vie.
Ouais. Est-ce qu'elle vous va, cette vie?
Elle me va parfaitement et d'ailleurs elle me manque beaucoup, ce côté un peu escargot avec sa maison sur son dos, la sensation d'appartenir à personne et à aucun endroit, c'est quelque chose de... qui m'a effectivement beaucoup plu et beaucoup inspirée. Ouais.
Prête à la vivre de nombreuses années?
Ah bah oui, je pense. Ouais.
Justement, cette vie-là, il y a 1 an et demi, vous en avez été totalement dépossédé, on en parlait tout à l'heure. Ça vous a beaucoup affecté. Je crois savoir que cette période épidémique, franchement, vous a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Peur du virus, peur de l'attraper. Est-ce que vous commencez à réussir à vous en libérer de cette peur-là ou elle est toujours présente?
J'ai toujours peur, évidemment, mais je vois la lumière au bout du tunnel. Et je me sens très encouragée par ce qui se passe en ce moment. J'adore me balader sans masque dans la rue. Je suis sortie le matin juste pour pouvoir, sortir sans masque. J'allais nulle part, mais juste marcher 2 secondes et me dire je peux le faire, c'est génial. Je sais pas, je commence à me sentir mieux. J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et je trouve cette période magnifique. Je pense qu'on vit quelque chose de très fort, d'historique. Et j'essaye de le savourer.
Et de voir comme quelque chose de constructif. Pour garder la pêche, en tout cas, pendant cette période difficile, vous écoutiez Abba, les Jackson 5, ou encore Françoise Hardy, qui est une de vos idoles et qui a chanté l'amour quasiment toute sa carrière. Cœur, c'est un disque qui ne parle que d'amour et de sentiments, à l'instar de ce titre qui nous donne aussi envie de bouger, de danser, de sourire. On continue à se faire plaisir avec Amour Toujours et la régie danse et sourit. C'est pour ça que je souris aussi. Chez vous aussi, j'espère que
vous voyez que
dansez.
Je suis une ambianceuse.
Ouais, complètement, je confirme. Restez avec nous, ça va continuer à ambiancer sur RTL avec Clara Luciani. À tout de suite pour la suite du journal inattendu.
Le journal inattendu sur RTL avec Clara Luciani et Ophélie Meunier.
Le journal inattendu de Clara Luciani
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Clara Luciani, laissez-moi revenir un petit peu en arrière. Étudiante en histoire de l'art, à Aix, à 20 ans, vous avez arrêté vos études, vous avez débarqué à Paris, primé, puis rencontré le collectif La Femme, dont vous avez été l'une des voix. J'ai résumé, hein, voilà. Mmh,
les, 19 ans, je parle.
19 ans, ouais. même avant 20 ans. À 26 ans, votre album Sainte Victoire sort et depuis 3 ans, vous êtes devenue l'un des noms incontournables de la scène française. Je ne sais pas si ça vous... Ça vous met la pression, un nom incontournable, succès. Faut que je me retienne sur ces mots-là. Sur l'album Cœur, vous confirmez que vous êtes aussi une femme engagée avec ce titre qui s'appelle Cœur, qui ouvre le disque et qui est dédié aux femmes victimes de violences conjugales.
L'amour
Le titre aussi montre à quel point vous faites les choses comme personne, à votre façon. Vous parlez d'un sujet hyper grave, avec des basses, un rythme. Et pourquoi pas, en fait ? On n'est pas obligé de mettre une musique triste sur des paroles tristes et sur un sujet triste. Et ça, je trouve que c'est un message très fort de votre part.
Bah oui, moi j'ai toujours d'ailleurs refusé de choisir entre le dansant et le grave, en fait. Et ça, c'était déjà le cas avec La Grenade. Et je me le suis encore autorisée sur ce disque-là, notamment, c'est vrai, avec la chanson Cœur. Chanson un peu de grande sœur. Voilà, j'ai que 28 ans, mais je sais que je suis écoutée par beaucoup de jeunes filles qui sont plus jeunes que moi. Et voilà, je prétends pas sauver des vies, mais j'avais envie de faire cette chanson pour les prévenir, quoi, parce que parfois on s'en rend même pas compte qu'on est en train de s'enliser dans une relation très nocive. Donc si cette chanson pouvait résonner dans leur vie, les aider, ce serait merveilleux.
Les violences conjugales, c'est quelque chose qui le touche aussi énormément et vous n'avez pas que ça en commun. Gros coup de cœur mutuel entre vous et Julien Doré. Vous partagez un duo sur son album. Il y en a un aussi de vous deux sur le vôtre. Le titre s'appelle « Sad and Slow », il est magnifique. Quand on pense à Julien Doré, on pense aussi évidemment à ce que vous aimez chez lui, c'est son univers artistique, hein, c'est un tout, c'est les chansons, mais c'est vraiment un univers artistique. Julien Doré, il était notre invité il y a quelques semaines. Tout au long de votre enfance et du début de votre carrière, il y a ce film qui vous a accompagné, vous en parliez dans votre autoportrait, il vous a inspiré, c'est Les Demoiselles de Rochefort. C'est très chouette de vous avoir à côté en studio. Alors la plupart des gens qui nous écoutent, il y a quelques-uns qui vous nous regardez aussi sur RTL.fr, mais vous vivez tout, vos chansons, vos extraits, ça danse, ça bouge les épaules, ça bouge la tête, c'est génial. Ce film, est-ce qu'il a aussi été un refuge même parfois, par exemple pendant la pandémie ou pendant des moments
difficiles? Ah oui, c'est vrai que je l'ai re-regardé pendant la pandémie, c'est marrant que vous disiez ça. J'ai regardé celui-ci, puis je me suis fait tous les demi du coup.
Mais donc,
la même occasion.
Combien de fois vous avez regardé Les Demoiselles?
Oh là là, franchement,
énorme.
Plus d'une centaine de fois, je pense, très sincèrement. C'est ma vie.
À 28 ans, vous avez deux albums réussis. Des duos partagés avec des stars de la chanson française. Vous écrivez pour les plus grands, Julien Clerc notamment, qu'on a reçu aussi ici. C'est quoi votre prochain grand rêve?
Mais moi, je n'ai pas fini celui-ci. Alors, c'est ça, c'est que j'ai l'impression... Enfin, je veux juste ne pas me réveiller de celui-là parce que c'est tellement beau. Mais bon, voilà, si je devais avoir un rêve là maintenant, ce serait de pouvoir retrouver le public, retrouver la scène. Là, voilà, je croise les doigts pour que les dates soient maintenues en octobre et puis en mars prochain.
Dans un instant, le rappel des titres et pour votre reportage inattendu, vous avez souhaité, Clara, nous emmener dans les coulisses de la réouverture des boîtes de nuit, toujours avec les épaules qui bougent. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Clara Luciani avec Ophélie Meunier sur RTL.
RTL, il est 13h.
Le journal inattendu de Clara Luciani.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
H-2 pile avant le coup d'envoi de la rencontre Hongrie-France. Un match important pour nos Bleus. S'ils gagnent, ils sont sûrs d'aller en huitième de finale, quoi qu'il arrive face aux Portugais. Julien Fautra, l'un de nos envoyés spéciaux à Budapest, était ce matin avec des supporters français qui ont fait le déplacement, très excités à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre.
Enfiler le maillot, tout ce qui va avec. Plus de Français, plus de supporters étrangers, une plus grande communion. Je pense que ça va être génial, tout simplement.
C'est une excuse pour nous aussi de se retrouver à l'étranger. C'est un grand moment de camaraderie et c'est ça le plus important pour nous.
Il va y avoir, je ne sais pas combien de supporters hongrois, on joue chez eux, donc ils vont être 60 000. Donc il faudra donner de la voix, tout simplement.
On sera 5 000, il y aura quand même beaucoup d'Hongrois, ils sont assez chauds. Ouais, boire un peu, s'hydrater la voix. Si on, quand on aime, on chante.
Quand on aime, on chante. Ça n'est pas passé inaperçu à ma droite. Des supporters au micro RTL de Julien Fautra, l'un de nos envoyés spéciaux sur place à Budapest, avec à la technique Julien Griveaux. À la une également, ces affrontements d'une grande violence à Redoux en Ille-et-Vilaine entre les forces de l'ordre et 1500 personnes qui se retrouvaient pour une rave party illégale. Alors que les policiers tentaient de disperser les fêtards, des heurts ont éclaté. Le bilan est lourd. De nombreux blessés et un jeune homme de 22 ans qui a perdu une main ce matin. La tension n'était toujours pas redescendue. J-1 avant le premier tour des élections régionales et départementales. Le scrutin se déroulera bien sûr sous un protocole sanitaire strict. Masque obligatoire pour aller voter. Et il est fortement conseillé d'apporter son propre stylo pour émarger. Les urnes seront régulièrement désinfectées. Une grande soirée électorale avec Vincent Parisot et Thomas Soto se tiendra demain à partir de 18h sur notre antenne. En Iran, un nouveau président vient d'être élu au premier tour. Ebrahim Raisi, candidat ultra-conservateur, l'a emporté avec 62% des voix. Il succède donc à Hassan Rouhani. Et puis lundi, c'est la fête de la musique. Vous le savez, des mini-concerts sont autorisés à se tenir dans les bars et il n'y aura plus de couvre-feu. Mais ces événements devront se tenir dans des conditions très contraignantes, ce qui ne facilite pas du tout la tâche des organisateurs. Clara Luciani, qu'est-ce que vous en pensez? Vaut-il mieux faire ces concerts, quitte à ce que ce soit un peu compliqué, ou bien s'en passer, attendre finalement que ce soit plus simple à vivre?
Je suis partagée, mais je pense qu'il faut essayer de maintenir les concerts. Et voilà, oui, c'est peut-être un petit peu moins marrant, un peu moins facile, un peu moins spontané, mais au moins on peut quand même se retrouver.
C'est un petit début de liberté, c'est toujours bon à prendre. Vous gardez la main, puisqu'à 13h, la météo, c'est avec notre invité. Alors, quel temps fera-t-il ce week-end ?
Du soleil et des températures estivales dans l'est et le sud du pays cet après-midi, avec du mistral en Provence et une tramontane assez forte en Roussillon. Pour l'ouest et le nord en revanche, ce sont les orages qui vont rythmer les prochaines heures, orages qui seront particulièrement forts entre le bassin parisien et les Hauts-de-France. Les températures seront comprises entre 19 et 34 degrés, les 19 pour Brest, les 34 pour Montélimar et il fera 30 degrés. À Martigues.
C'est presque chantant avec la voix qu'on connaît. Ça va mieux, c'est fait ?
C'est fait.
30 degrés à Martigues.
C'est parfait. Votre ville de naissance. J'aimerais y être et je les embrasse.
S'il y a bien une chanson dans laquelle il y a du soleil et de la chaleur, c'est Respire encore, nouveau single de votre dernier album qui vient de sortir. Vous invitez à la danse, à la fête, à s'embrasser, à s'enlacer, à vivre, quoi. Ce titre, en fait. Au départ, il était inspiré de l'histoire de l'une de vos amies, piégée dans une relation sentimentale toxique, et vous l'invitiez donc à s'en libérer, à respirer. Et puis, vu l'actualité, c'est devenu un hymne à la liberté universelle. C'est ça aussi la magie de la musique, c'est de vous échapper, parfois.
Totalement. Totalement. Parfois, je commence une chanson, je ne sais pas trop de quoi elle va parler, et puis je me laisse guider par elle, au final. Ouais.
Et vous allez vraiment avoir besoin de réapprendre à boire ?
Écoutez, oui, parce que hier, par exemple, j'ai bu une petite coupe pour célébrer le classement. Et puis ce matin, vous voyez, j'ai un peu mal à la tête. Donc apparemment,
ça s'entend, en tout cas, ça se voit pas et ça s'entend pas. S'il y a bien un métier qui n'attend que ça, ce retour à la fête et aux soirées, c'est le monde de la nuit. Début juillet, normalement, les boîtes de nuit vont pouvoir ouvrir après un an et demi de fermeture stricte. Hein. Pour votre reportage inattendu, vous avez souhaité nous emmener dans les coulisses de cette réouverture. Attends. attendu. Direction Saint-Tropez avec notre reporter Mickaël Lefebvre.
On est samedi. Lâchez-vous.
Privé d'exercer son métier depuis 15 mois, Grégory, alias DJ Gregos, a dû s'adapter pour continuer à assouvir sa passion.
J'ai mixé en live toutes les semaines, tous les samedis de 21h à 2h du matin, en direct de mon studio, avec des gens qui venaient se connecter du monde entier.
64 mix en live, parfois suivis par plus de 3000 personnes, mais qui ne remplacent pas, bien sûr, le contact humain. Depuis l'annonce de la réouverture prochaine des discothèques, ce DJ tropézien voit enfin une lueur au bout du tunnel.
C'est vital, ravoir un dance floor avec du monde devant nous, du plus jeune au plus ancien, tout le monde a envie de se retrouver, tout le monde a envie de bouger, de danser, d'écouter de la musique, de partager. Tout le monde en a absolument besoin aujourd'hui.
Un besoin fortement ressenti chez les plus jeunes comme Pauline, Raphaël ou Quentin.
Ouais, non mais ouais, moi, dès que ça ouvre, je vais direct en boîte. Ça nous a manqué au bout d'un an ou je sais pas.
On est impatient d'y faire quoi là dans ces boîtes de nuit là pour le coup.
Honnêtement, danser jusqu'au bout de la nuit et voilà, kiffer.
Moi j'y vais pas trop pour danser. Hein. Ah, pour rencontrer des filles. Et c'est, on est jeunes, hein, il faut qu'on profite, on s'amuse, voilà.
S'amuser et éviter les fêtes sauvages dans les villas, sur les yachts ou sur la plage, comme cela s'est passé l'été dernier. Concernée au premier chef par les nuisances qui en ont découlé, Sylvie Siri, la maire de Saint-Tropez, accueille donc avec joie et soulagement cette nouvelle.
Nous avons 5 boîtes de nuit, voilà, dans un tout petit village, 5 boîtes de nuit, donc une clientèle festive à aller certainement plus de 50%. Et pour nous, c'est très important de pouvoir canaliser cette population festive dans les boîtes de nuit, encadrées par de vrais professionnels qui sauront prendre soin des mesures et respecter les mesures sanitaires.
Des mesures qui ne sont pas encore totalement définies, passe sanitaire, jauge à 65%, ventilation, masque sur le dance floor, tout cela est encore en discussion. Mais pour Jean Roch, le patron du VIP Room à Saint-Tropez, il ne faudrait pas que trop de contraintes viennent gâcher la fête.
On est entre le stress et le trac d'une entrée sur scène et en même temps, j'ai l'impression que le public sera là et en masse et que le public a envie de partager, de communier, de revenir à la vie. Mais s'il vous plaît, messieurs du gouvernement, donner la chance à cette profession et au public de nouveau être heureux. Et pas en les attachant, mais plutôt en les responsabilisant.
Jean Roch, qui a d'ailleurs aussi un petit message pour vous, Clara.
Clara, puisque tu es une enfant du Sud, puisque tu as tourné ton dernier clip à Sanary, j'espère sincèrement te recevoir ici à Saint-Tropez très prochainement.
Et ben voilà, vous n'avez plus qu'à aller faire un petit tour à Saint-Tropez.
Je vais faire mes valises immédiatement.
Ça donne envie, en tout cas. Restez là jusqu'à 13h30, s'il vous plaît. En tout cas, on aime beaucoup l'honnêteté des personnes interrogées dans le reportage.
Et DJ Gregos, moi, j'ai adoré.
Ah bah écoutez, je pense qu'il nous écoute. À l'instar de votre chanson Respire Encore, eux aussi savent parfaitement trouver les mots pour chanter notre époque. Vous avez souhaité aujourd'hui nous faire écouter le titre Monde Nouveau de Feu Chatterton. C'est l'un de vos morceaux préférés du moment, d'un groupe qui vous tient particulièrement à cœur. Hein.
Oui, moi j'ai toujours été fan de Feu Chatterton, je suis très amie avec Arthur, le chanteur. Et cette chanson, je l'écoute tout le temps, je la trouve superbe, je trouve qu'elle nous définit bien. Et voilà, elle a quelque chose dans l'énergie d'assez similaire à Respire Encore, c'est les chansons du monde d'après.
C'est pour ça qu'elle a enchaîné avec Respire Encore et les boîtes de nuit. Dans un instant, nous serons avec votre invité, c'est le moment. Votre
père, j'ai peur,
est en ligne, Jean-Marc Luciani. À tout de suite pour la suite du journal inattendu.
Le journal inattendu de Clara Luciani. Avec Ophélie Meunier sur RTR.
Le journal inattendu sur RTL avec Clara Luciani et Ophélie Meunier.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois.
Ma sœur. Titre de votre album Sainte-Victoire dédié à votre sœur, la chanteuse Ella, dont vous êtes très très proche, et pas que, hein, vous êtes aussi proche de vos parents, une famille très unie, voilà pourquoi vous avez eu le courage, j'ai envie de dire, d'avoir choisi comme invité aujourd'hui votre père.
Oui.
Jean-Marc Luciani. Bonjour Jean-Marc, merci beaucoup d'être avec nous.
Coucou papa.
En direct.
Bonjour Félix, bonjour à tous les auditeurs et puis bonjour à Clara.
Ah, quand même.
Et la gentillesse de m'inviter.
Alors, la première question que se posait Clara quand même, c'est est-ce qu'il va garder son accent du Sud pendant l'interview ou est-ce qu'il va faire attention de parler plus pointu?
Non, parce que si tu parles comme ça, moi je parle comme ça aussi.
Ouais, ça...
Ah, mais on peut faire pareil. Hein.
Bon alors Clara, c'est fort, hein, c'est hyper symbolique d'avoir choisi votre père, ça prouve encore une fois votre authenticité, franchement, votre sincérité, car les personnes qui nous connaissent le mieux, ce sont bien nos parents. Avec vous Jean-Marc, on peut déjà expliquer et revenir peut-être aux origines du goût pour la musique de Clara. Vous êtes musicien, votre épouse chante, donc vraiment c'est une famille qui a grandi avec la musique, qui a baigné dans la musique et ça a évidemment contribué à ce qu'on sait aujourd'hui de Clara.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que la musique est quelque chose de fondamental pour nous quatre, on va dire. Et c'est vrai que ça fait partie prenante de notre vie.
Clara est tombée très jeune, vous me disiez, dans la culture, dans l'écriture, dans la lecture, les pièces de théâtre. Et elle était déjà très observatrice de tout ça. Vous avez déjà senti à ce moment-là son goût pour la mise en scène?
Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'avant d'être, je dirais, la musicienne qu'on connaît, c'est vrai qu'au départ, elle était très, très attirée par le spectacle. Et ouais, moi, j'ai le souvenir de l'avoir amenée voir une pièce ensemble. Et c'était sur le Marius, César et Fanny, donc c'était local. Et en rentrant, elle m'avait refait pratiquement l'intégralité de la tirade.
C'est pas vrai.
Une
c'était
extraordinaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Avec l'accent, avec les questions impressionnantes. Et voilà, elle avait ce côté-là, très, 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 très actrice, très, voilà, elle nous a fait des petits spectacles, je dirais, dans le salon. Voilà, c'était mémorable, tout à fait. Et puis l'écriture, oui, aussi, la lecture et l'écriture, parce qu'au départ, c'était vraiment ce qui l'a tiré. Et la musique est venue après. Mais je crois que c'est complémentaire, de toute façon, tout ça. Si on le lit, la lecture, l'écriture, le sens du spectacle et la musique, c'est une évidence après. Mais je crois que tout ça, ça fait ce qu'elle est aujourd'hui.
Clara, vous avez parlé... nos auditeurs ne le voient pas, mais Clara est très émue, je crois, de vous entendre, Jean-Marc. Et tant mieux, c'est bien, c'est hyper authentique, le moment qu'on est en train de vivre. Vous allez mettre dans une condition compliquée. Clara, vous écriviez déjà des textes et des poèmes quand vous étiez adolescente. Vous avez parlé, et à l'école, vous avez parlé de cette période où vous étiez un peu la bizarre, la trop grande, vous vous êtes exprimé sur cette période-là. Et Jean-Marc, vous me racontiez qu'il y a une professeure de français qui avait repéré votre talent pour l'écriture et qui disait aux autres élèves, franchement, ne vous moquez pas, vous verrez. Bah, ils ont vu, hein, je crois, là,
oui,
ça y est.
C'est ça, c'est tout à fait ça.
Madame Murat.
Voilà, oui,
elle s'appelait Madame Murat et j'aimais tellement cette femme et je rêve de la retrouver, de la revoir. Elle m'a beaucoup aidée. Je suis même pas certaine
qu'elle le fasse.
Ouais, je suis pas certaine qu'elle sache à quel point elle m'a aidée en fait.
C'est vrai.
Ouais.
Elle vous a réconfortée, soutenue face aux autres.
Ouais, c'est tout à fait ça.
Donner confiance en vous.
Et à un moment où j'en avais tellement besoin. Donc ouais. C'est pour ça les professeurs vraiment vous faites un métier très important.
Et puis en grandissant, il y a eu le passage à la guitare, la première guitare achetée dans un vide-grenier. Jean-Marc, c'est vous qui lui avez appris à jouer de la guitare, parce que vous êtes guitariste.
Oui, c'est un grand mot. Je gratouille.
Non, papa, il joue très très bien de la guitare et il joue très bien de la basse, mais il dit toujours qu'il ne sait pas jouer.
Voilà, mise au point.
Non, c'est vrai, ce que raconte Clara, hein, à travers les interviews que j'ai pu lire. Effectivement, c'est ça, c'est qu'on avait fait des vide-greniers pour récupérer une somme, et avec ça, elle s'était acheté sa première guitare, hein, c'est vrai, effectivement, guitare électrique rouge. Et c'est vrai qu'elle s'y est mise, mais c'est quelque chose qui a été très, très autonome, Clara, ce côté-là.
Donc vous lui avez montré quelques accords, mais assez vite, elle vous a dit « je vais me débrouiller
ouais. »,
c'est ça ?
Oui, très gentiment, elle m'a dit « bon, ok, c'est bon, je vais me débrouiller ». Non
voilà, mais parce que t'es le meilleur...
Son propre style, son propre jeu...
T'es le meilleur des papas, mais t'étais peut-être pas forcément le meilleur des profs, papa, mais je t'aime.
Ben voilà.
Ça y est, c'est
balancé. Ça commence, c'est le jeu de la vérité, en fin de compte, c'est ça.
On continue à grandir. Ah, donc 19 ans, on en parlait, vous avez claqué la porte des études et vous êtes parti à Paris. Est-ce que vous avez eu peur, Jean-Marc Luciani ? Et qu'est-ce qui vous a convaincu de la laisser partir, votre fille chérie ?
Oui, peur. Ben, je pense comme chaque parent qui a un enfant qui décide de partir très loin comme ça. Enfin, pour nous, c'est sûr que Paris, la province, c'était le bout du monde. En plus, avec sa guitare sur l'épaule et vraiment à l'aventure parce qu'elle n'avait juste une location qu'elle avait trouvée comme ça à la hâte et aucun emploi. C'était vraiment je demanderais quoi, je me débrouillerais. Et c'est vrai que oui, ça m'angoissait de la voir partir comme ça dans ces conditions.
C'est normal, on le comprend.
Voilà, je pense que là, chaque papa peut comprendre ça. Et ce qui m'a convaincu, c'est que c'est vrai qu'elle m'a gentiment rétorqué que ce qu'elle voulait, surtout, c'est de pas avoir les mêmes regrets et que les mêmes que je pouvais mettre moi autour de la table familiale lorsqu'on discutait, parce que moi c'est toujours mon grand regret, c'est justement de pas avoir quitté le sud pour essayer de tenter ma chance de façon plus professionnelle, on va dire. Et c'est vrai que ça m'a désarmé, parce que c'est vrai qu'effectivement ce que je me reprochais, je ne pouvais pas l'empêcher de le faire à ma propre fille. Voilà, donc j'ai mis tout ça dans ma poche et puis je me suis dit tant pis, prenons le risque, et puis c'est son bonheur qui prime avant tout, et elle a très très bien fait, puisque voilà, aujourd'hui on en est.
Je ne sais pas si je dois vous faire réagir parce que vous avez plein de larmes dans les yeux, ou si je dois vous laisser reprendre vos esprits pendant une courte pause, mais j'ai tellement envie de vous entendre sur ce que dit votre papa, voilà, qui aujourd'hui...
C'était un moment important, même pour moi, de les quitter, alors qu'on a cette relation très fusionnelle, ce n'était pas évident. Ouais. Mais c'était un appel du cœur, quoi. Et alors même que j'avais rien vraiment à Paris, c'était... Mais j'ai senti qu'il fallait que j'y aille, quoi. J'étais appelée par la musique.
On continue sur ce joli parcours avec vous, Jean-Marc, et avec vous, Clara Luciani. La suite du journal inattendu, c'est émouvant et c'est dans un très court instant. À tout de suite.
RTL, le journal inattendu.
Le journal inattendu sur RTL avec Clara Luciani et Ophélie Meunier.
Prends garde sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade.
Il y a clairement eu un avant et un après la grenade. 2018, c'est devenu un tube, mais au départ, faut le rappeler, très très peu de radio en fait en voulait, et ça vous a beaucoup stressé. Vous en parliez à votre papa, à Jean-Marc, justement. Jean-Marc, vous vous souvenez de ce moment où Clara doutait de réussir? Elle avait la grenade,
oui.
Et puis en fait, les radios ne le passaient pas, quoi.
Ouais, c'est ça. Ce qui était surprenant d'ailleurs, parce que c'est un titre qui n'a pas été remixé ou retouché. Il était il a été encensé par l'album, hein, mais par les critiques au niveau de la presse. Mais par contre, pour les radios, à part certaines radios qui l'ont passé, mais je me rappelle avoir eu Clara au téléphone, qui était assez déçue en me disant mais on a un problème, ça ne prend pas, quoi, les radios n'en veulent pas. Et d'ailleurs, vous voyez, il a vraiment explosé fin 2018, début 2019. Donc, et il est sorti en avril 2018. Donc c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui n'a pas systématiquement fonctionné, alors que c'était un morceau qui était efficace tout de suite.
C'est un moment où ça a été un moment compliqué pour vous, de grands doutes.
Ça a été un moment compliqué. Après, très honnêtement, j'ai des doutes tout le temps. C'est-à-dire que là, à la veille de l'album, c'était terrible. Là, bon, je vois effectivement le classement très encourageant, etc. Mais je continue à avoir des doutes. Je ne suis que doute et à la fois, je crois que c'est devenu une forme d'énergie que j'utilise aussi pour essayer de me dépasser à chaque fois, me mettre au travail. Je vis avec mes doutes, mais c'est vrai que ce moment-là où l'album est sorti, où il a été pas très bien accueilli, ça a été un peu difficile. Et j'ai eu la chance effectivement d'être très bien entourée, notamment par ma famille.
Il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas douté, c'est de garder le mot cul dans votre chanson Le Reste. Alors je recontextualise la situation, puisque maintenant qu'on a votre papa en ligne, on va pouvoir avoir sa version des faits. Vous avez raconté ces derniers jours que la première fois que votre papa a entendu la chanson Le Reste et qu'il a entendu dans votre bouche le mot cul, franchement ça lui a pas beaucoup plu. On réécoute pour nos auditeurs.
Je ne peux pas oublier ton cul et la grande beauté perdue sur ton pouce et la peau tout au bout.
Désolée, papa.
Donc Jean-Marc Luciani, pas hyper partant pour que sa fille chante le mot cul dans sa chanson Le Reste. Et puis finalement, vous l'avez gardé, ouais. Clara. Alors, Jean-Marc, vous avez changé d'avis? Vous êtes toujours déçu? Expliquez-moi votre point
de vue. Non, j'ai pas fait de blocage par rapport à ça. Non, c'était une réaction assez spontanée, dans le sens où quand Clara m'a fait écouter le morceau, c'est vrai que par rapport à ce qu'elle écrit, ce qu'elle fait dans le style, c'est vrai, et d'ailleurs je suis pas le seul, parce que je pense que ça a heurté
oui, vraiment, raison,
ça a surpris, et j'ai vu dans les médias, il y a eu cette réaction en disant Clara, et j'ai eu la même, hein, je reconnais, moi qui suis son père, j'ai eu la même, mais ce que j'avais oublié, ce que Clara m'a expliqué, et que maintenant, voilà, c'est pour ça que j'arrive à comprendre, c'est la démarche, et c'est que dans le thème de la chanson, c'est cette femme qui parle donc de cette expérience, et ce qu'elle en retient, et ce côté très physique, et utiliser quoi comme autre mot, je veux dire, à part celui-là. Une fois, voilà, quand le mot est nécessaire, c'est comme au cinéma, il y a certaines images aussi qui sont nécessaires. Quand c'est nécessaire, quand ça sert la chanson, c'est vrai qu'effectivement, là maintenant, c'est quelque chose qui ne me choque plus du tout.
Je suis heureuse de l'entendre, mon papa.
Oui, parce que c'est cohérent. Après, il y a
voilà, tout à fait.
On s'est réconciliés à la radio.
On les a réconciliés en direct.
Non, mais vraiment, ce mot, c'est un peu le grain de poivre, l'épice de cette chanson-là, parce que sinon, j'aurais eu peur qu'elle soit mièvre. En fait, c'est très dur de décrire des chansons d'amour et qu'elle soit pas trop cuculapraline.
Mais voilà. Jean-Marc, ça y est, tout le monde est content.
C'est mieux cucu, non, que cucu.
C'est difficile de choisir, mais s'il y a une chanson de ce nouvel album, Cœur, que vous souhaiteriez retenir, Jean-Marc Luciani, ce serait laquelle?
Ah, parce que c'est vrai que c'est un très bel album, mais pour moi, je dirais celle qui me fait vraiment, enfin, où je sens vraiment Clara, parce que c'est Au revoir. Parce que c'est une chanson, voilà, je la retrouve, moi, dans ce qu'elle disait tout à l'heure, dans ses doutes, dans ses peurs, le besoin d'être rassurée à travers les paroles, quand elle dit, dis-le-moi, que tu n'oublieras pas, et tout ça, toute cette fragilité-là qui ressort dans ce morceau. Moi, j'y suis très, très, très sensible, et le morceau en lui-même est magnifique, c'est une très, très belle mélodie, super bien arrangée, mais voilà, moi, c'est Clara. Tout simplement.
Un immense merci pour ce
très joli moment. Merci beaucoup.
Merci, j'allais dire. Je suis désolée, je suis perturbée aussi, je vous cache pas. Père-fille que vous nous avez offert tous les deux, c'était inédit.
Bonne fête, papa.
Merci. Merci à vous, merci.
Inédit et hyper sincère à votre image. On ne peut que dire à nos auditeurs d'acheter cet album Cœur qui est juste génial, on l'aime, on valide. Merci à tous pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre appli RTL. Tout de suite, je vous laisse avec Jean-Alphonse Richard pour un confidentiel consacré à Joe Dassin. La semaine prochaine, je reçois Adélaïde de Clermont-Tonnerre, écrivaine et directrice de la rédaction du magazine Point de Vue. Excellent week-end, Clara Luciani. Je vous laisse reprendre vos esprits. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. C'était un super moment. Merci beaucoup.
À samedi prochain, 12h30.
Quand j'aurai tout chanté, je me tairai.
journal inattendu. RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.